et bonjour à chacun. Cela fait maintenant un bon moment que nous cheminons le dimanche matin en compagnie de Joseph. Et nous arrivons presque au bout de notre voyage, de cette série dont c'est le 11e et avant-dernier volet ce matin. Jacob et les siens sont maintenant en Égypte où ils ont rejoint Joseph. Nous avons vu la dernière fois l'épisode où Joseph et ses cinq frères se présentent devant Pharaon. Et puis, ensuite, Joseph et Jacob qui se présentent à leur tour devant Pharaon. Nous allons aujourd'hui faire l'impasse sur les versets 13 à 26 du chapitre 47, très intéressant, mais voilà, j'ai fait ce choix-là, où il est question de l'habileté politique de Joseph pendant la famine. Je vous invite à le lire, c'est très intéressant, mais nous ne le méditerons pas ce matin. Et je vous invite à reprendre la lecture au chapitre 47, à partir du verset 27. Genèse 47, à partir du verset 27. Israël s'installa en Égypte, au pays de Goshen. Ils y furent propriétaires. Ils furent féconds, ils se multiplièrent, ils devinrent très nombreux. Jacob vécut 17 ans en Égypte. Les jours que vécut Jacob furent de 147 ans. Comme le moment de sa mort approchait, Israël appela son fils, Joseph, et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets ta main sous ma cuisse, je te prie, et agis envers moi avec fidélité et loyauté. Je t'en prie, ne m'ensevelis pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu m'emporteras d'Égypte, et tu m'ensevliras dans leur tombeau. » Il répondit, « Je ferai ce que tu me dis. » Il reprit, « Jure-le-moi. » Il le lui jura. Puis Israël se prosterna sur la tête de son lit. Après cela, on dit à Joseph, « Ton... » Ah, pardon. Moi aussi j'ai fait un rêve cette semaine, mais c'était un rêve éveillé en réalité. C'était mercredi soir. Voilà, je referme cette petite boutade aux fans du PSG, excusez-moi. Et nous poursuivons très sérieusement la lecture. Après cela, on dit à Joseph, ça va être difficile de garder mon sérieux là tout de suite. Ton père est malade. Il prit alors avec lui ses deux fils Manassé et Éphraïm. On dit à Jacob, ton fils Joseph vient te voir. Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu puissant m'est apparu à Luz, en Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rends fécond. Je te multiplierai, je ferai de toi une assemblée de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi comme propriété perpétuelle. Maintenant, les deux fils qui sont nés de toi en Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront miens. Éphraïm et Manassé seront miens comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront tiens. Ils seront désignés sous le nom de leurs frères pour recevoir leur part du patrimoine. À mon arrivée de Paddan, Rachel mourut près de moi en Canaan, en route, à quelque distance d'Éphrata. C'est là que je l'ai ensevelie, sur le chemin d'Éphrata, c'est-à-dire Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Ceux-ci, qui sont-ils ? » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils, ceux que Dieu m'a donnés ici. » Il dit, « Je t'en prie, fais-les avancer vers moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui, il les embrassa et les étreignit. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et Dieu me fait voir aussi ta descendance. » Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna face contre terre. Puis Joseph les prit tous les deux, Éphraïm par la main droite à la gauche d'Israël et Manassé par la main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, alors que celui-ci était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Il avait croisé ses mains. En effet, Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph en disant, « Que le Dieu devant qui ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui a été de tout temps mon berger jusqu'à ce jour, que le messager qui m'a rédimé de tout mal bénisse ces garçons. Qu'on les appelle de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, qu'ils foisonnent, qu'ils se multiplient dans le pays. » Joseph vit que son père avait posé sa main droite sur la tête d'Éphraïm, et cela lui déplut. Il prit la main de son père pour la retirer de la tête d'Éphraïm et la mettre sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, « Pas ainsi, père, c'est celui-ci qui est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Mais son père refusa. Il dit, « Je sais, mon fils, je sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa descendance deviendra un ensemble de nations. » Il les bénit ce jour-là en disant, « C'est par toi qu'Israël bénira, en disant que le Dieu te rende comme Éphraïm et comme Manassé. » Ainsi, il mettait Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous ramènera au pays de vos pères. Quant à moi, je t'ai donné un Sichem, une part de plus qu'à tes frères, celle que j'ai prise aux Amorites avec mon épée et mon arc. » Voilà, nous arrêtons là la lecture et nous revenons au texte du début. Le récit que nous venons de lire commence par la mention de l'installation d'Israël en Égypte au pays de Goshen. C'est le verset 27. Et ici, au verset 27, dans le texte hébreu, Israël est au pluriel. Ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de Jacob, mais des Israélites, les descendants du patriarche. Et nous pouvons noter que c'est la première fois dans le texte biblique que le peuple de Dieu est ainsi nommé. Jacob et les siens, selon les paroles de Pharaon, se sont donc installés au pays de Goshen, sur des terres dont ils sont devenus les propriétaires. Et là, pendant 17 années, les 17 années que Jacob vécut en Égypte, a commencé à se réaliser la promesse de grande croissance que Dieu avait faite à la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous pouvons lire au verset 27, « Ils furent féconds, ils se multiplièrent, ils devinrent très nombreux. » Oui, Dieu avait promis de faire de la descendance d'Abraham une grande nation, Genèse 12, verset 2, de faire d'Abraham le père d'une multitude, chapitre 17, verset 4, de le rendre extrêmement fécond, chapitre 17, verset 6, de rendre sa descendance aussi nombreuse que les poussières, que la poussière de la terre, chapitre 13, verset 16, que les étoiles du ciel, chapitre 15, verset 5, et que le sable de la mer, chapitre 22, verset 17. Une promesse donc maintes fois rappelée à Abraham, puis ensuite à Isaac, et maintenant à Jacob. La dernière fois pour Jacob, c'était il y a pas si longtemps que ça, enfin, quand même, il y a 17 ans qui se sont passés, mais c'était juste avant qu'ils viennent en Égypte, qu'ils partent pour l'Égypte. Nous en avions parlé. C'est à la fin du chapitre 46. Dieu parla à Israël dans des visions nocturnes. Il dit « Jacob, Jacob !» Celui-ci répondit « Je suis là ». Il reprit « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. » Et dans le texte que nous méditons ce matin, dans le chapitre suivant, on y viendra dans quelques instants, quand Jacob bénit les deux fils de Joseph, il va lui aussi rappeler cette promesse. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu puissant m'est apparu à Luz, en Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te rends fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une assemblée de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi comme propriété perpétuelle. » C'est donc dans une perspective de croissance que Dieu a fait venir Jacob et les siens en Égypte. Et voilà que cette promesse est en train de s'accomplir. Une promesse qui va trouver son accomplissement littéral, physique, au début du livre de l'Exode. Après que le peuple ait passé près de 400 ans en Égypte et qu'il soit devenu si nombreux, le texte du début de l'Exode dit que le pays en fut rempli des Israélites, au point que cela va inquiéter le Pharaon qui va soumettre les Israélites à l'esclavage. Mais cette promesse de Dieu à la descendance d'Abraham n'a pas seulement un accomplissement littéral et physique. Cette promesse de croissance est aussi à comprendre spirituellement, et en particulier pour nous, à la lumière du salut qui est en Jésus-Christ. En réalité, cette promesse faite à la descendance d'Abraham nous concerne l'Église de Jésus-Christ, et cela en tout temps. L'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, dit que tous ceux qui appartiennent au Christ sont la véritable descendance d'Abraham. Ce sont eux les héritiers de la promesse, des promesses faites à Abraham. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, dit Paul, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est ainsi que la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont nous faisons partie, si nous appartenons au Christ, par la foi en Jésus-Christ, c'est ainsi que cette descendance a grandi et continue de grandir jusqu'au jour du retour de Jésus. Et ce jour-là, une foule innombrable, une multitude que nul ne peut compter, se tiendra devant le trône de Dieu. C'est ce que nous pouvons lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, verset 9. Après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Oui, la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sera un jour une multitude que nul ne peut compter, tout comme Dieu l'a promis, aussi nombreuse que la poussière de la terre, que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Nous revenons à notre texte. Jacob a donc vécu 17 ans en Égypte et il est maintenant âgé de 147 ans. et il sent que le moment de sa mort approche. Et il fait appeler Joseph. Dans quel but ? Dans le but de lui faire prêter serment. Serment de quoi ? Serment de ne pas l'ensevelir en Égypte, mais dans le tombeau de ses pères en Canaan, dans le pays de la promesse. Et Jacob fait prêter serment à Joseph selon les us et coutumes de l'époque. Aujourd'hui, par exemple, on lève le plus souvent la main droite pour jurer. Aux États-Unis, on le voit dans les films, dans les tribunaux, on pose la main sur la Bible. On lève l'autre main et on jure de dire la vérité. À l'époque de Jacob, on plaçait une main sous la cuisse au moment où on prêtait serment. Il semblerait que le sens de cette pratique soit le suivant. C'est discuté, mais c'est assez communément accepté. En plaçant sa main sous la cuisse de la personne à qui on prêtait serment, on la plaçait en réalité près des organes génitaux. Et on signifiait ainsi qu'on s'engageait à accomplir le serment que l'on prêtait vis-à-vis de la descendance de celui à qui on prêtait le serment. Certains pensent même que la cuisse est ici un euphémisme pour les organes génitaux. Je ne sais pas. De toute façon, ça ne change rien au sens qui serait le même. On peut noter que déjà Abraham, au chapitre 24, avait fait jurer son serviteur de cette manière-là. Au début du chapitre 48, il est question de la santé de Jacob. Et nous lisons qu'on vient dire à Joseph que son père est malade. Et c'est ainsi que Joseph se rend au chevet de Jacob, son père, en compagnie de ses deux fils, Manassé l'aîné et Éphraïm le cadet. Rassemblant ses forces, Jacob s'assied sur son lit et commence par rappeler à Joseph l'apparition de Dieu à Luz, qui est l'ancien nom de Bethel. Il souligne aussi à ce moment-là que Dieu qu'il appelle ici El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu puissant, il rappelle que c'est là, à cette occasion, que Dieu l'a béni pour la première fois et qu'il lui a renouvelé les promesses qu'il avait déjà faites à son père Isaac et à son grand-père Abraham. Et puis, ensuite, Jacob adopte, parce que c'est bien ce qu'il fait, adopte les deux fils de Joseph. Verset 5. « Maintenant, les deux fils qui sont nés de toi en Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront miens. Éphraïm et Manassé seront miens, comme Ruben et Siméon. » Et puis au verset 12, qui est dans la diapositive suivante, il est dit que Joseph retira des genoux de son père Éphraïm et Manassé, ce qui confirme qu'il s'agit bien d'une adoption, parce que c'est apparemment ainsi qu'on procédait quand on faisait une adoption. On plaçait l'enfant sur ses genoux. Notons ici qu'il est question d'enfants que Joseph a eu après Éphraïm, après Manassé et Éphraïm, mais dont le texte biblique ne dit rien. Et Jacob dit que eux resteront à Joseph et ils recevront leur part d'héritage au travers de Manassé et au travers d'Éphraïm. Jacob adopte donc Manassé et Éphraïm, qui vont recevoir ainsi chacun leur part d'héritage. Cela signifie que la part de Joseph est doublée. Cela signifie qu'en réalité, Joseph reçoit ici la part de l'aîné, qui était une part double. Et cela signifie donc que Ruben, l'aîné, a bel et bien perdu sa double part d'héritage pour une faute qu'il avait commise bien des années auparavant, quand il était allé vers une des concubines de son père. Et dans le chapitre suivant, quand Jacob bénit tous ses fils, et il y a le détail ainsi de tout ce que Jacob dit, nous voyons que pour Ruben, cette faute lui est rappelée. Éphraïm et Manassé vont donc devenir, au même titre que les autres fils de Jacob, des chefs de tribu. Et c'est ici qu'il faut faire un petit peu de calcul. Parce que d'un côté, il y a 12 fils naturels de Jacob, plus ses deux fils adoptés, ça fait 14. Or, il n'y a que 12 tribus d'Israël. Alors, c'est assez simple en réalité. Il faut bien évidemment enlever Joseph, puisque Éphraïm et Manassé reçoivent la double part de Joseph, donc 12 moins 1, auquel on ajoute Éphraïm et Manassé, ce qui fait 13. Donc on n'est pas encore au bout de nos peines. Et ensuite, il faut simplement enlever la tribu de Lévi, qui, elle, ne reçoit pas de territoire, mais recevra des villes dans chacun, dans chacune des tribus, des territoires. Ce qui fait bien 12 tribus d'Israël. Nous continuons avec notre texte. Jacob a donc décidé d'adopter Manassé et Éphraïm, et il veut maintenant les bénir selon l'usage de l'époque. C'est pourquoi Joseph place Manassé l'aîné à la droite de son père et Éphraïm le cadet à sa gauche. Ainsi, chacun recevra la bénédiction qui correspond à son rang de naissance. Verset 13, puis Joseph les prit tous les deux, Éphraïm par la main droite à la gauche d'Israël, et Manassé par la main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Tout est maintenant en place pour que Jacob puisse prononcer la bénédiction, celle de l'aîné pour Manassé, à sa droite, et celle du cadet pour Éphraïm à sa gauche. Mais telle n'est pas la volonté de Jacob, qui fait exactement l'inverse. Il pose sa main droite sur la tête d'Éphraïm à sa gauche, et sa main gauche sur la tête de Manassé à sa droite. Il doit croiser les mains pour ce faire, ce qui indique que c'est un choix délibéré de sa part. Verset 14, Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, alors que celui-ci était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé, il avait croisé ses mains, en effet, Manassé était le premier-né. Avant de bénir Éphraïm et Manassé, Jacob va bénir Joseph. Ce sont les versets 15 à 16, mais nous y reviendrons dans quelques instants. Revenons à la bénédiction des deux fils. Voyant que son père s'est trompé, le texte nous précise d'ailleurs qu'il ne voit pas, qu'il est aveugle, Joseph intervient, se dépêche d'intervenir avant que son père ne prononce la mauvaise bénédiction sur Éphraïm et sur Manassé. Versets 17 et 18, Joseph vit que son père avait posé sa main droite sur la tête d'Éphraïm et cela lui déplut. Il prit la main de son père pour la retirer de la tête d'Éphraïm et la mettre sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, « Pas ainsi, père, c'est celui-ci qui est le premier-né. » Pose ta main droite sur sa tête. Heureusement que Joseph est là. Heureusement qu'il est vigilant. Heureusement, sans quoi son père se serait trompé. Est-ce bien le cas? Joseph a-t-il évité le pire? Est-on passé tout près de la catastrophe? Non, Jacob ne s'est pas trompé. Manassé deviendra aussi un peuple. Verset 19, lui aussi sera grand mais son cadet Éphraïm sera plus grand que lui. Et c'est ainsi que Jacob persiste et signe et bénit Éphraïm le cadet de la bénédiction de l'aîné. Mais son père refusa, il dit, je sais mon fils, je sais, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa descendance deviendra un ensemble de nations. Il les bénit ce jour-là en disant, c'est par toi qu'Israël bénira en disant, que Dieu te rende comme Éphraïm et comme Manassé, ainsi il mettait Éphraïm avant Manassé. Nous notons ici que la prophétie de Jacob au travers de cette bénédiction va s'accomplir dans la vie du peuple d'Israël. Et la tribu d'Éphraïm sera la plus grande des tribus, en tout cas du royaume du Nord. Vous savez qu'il y aura le royaume du Nord et le royaume du Sud, et qu'en réalité le royaume du Nord est de loin le territoire le plus vaste, puisque 10 tribus composent le royaume du Nord, et que dans la plupart des prophètes, ce sera le nom d'Éphraïm qui sera utilisé pour désigner l'ensemble de ces 10 tribus, l'ensemble du peuple d'Israël dans le royaume du Nord. C'est bien Éphraïm qui deviendra le plus grand. Alors cet épisode n'est pas sans rappeler la bénédiction de Jacob par Isaac, son père, également aveugle. Vous vous souvenez, Isaac qui avait aussi béni le cadet de la bénédiction de l'aîné. Et le cadet, en l'occurrence, c'était Jacob, qui avait reçu la bénédiction d'Ésaü. Mais il y a une différence de taille entre les deux épisodes. La différence de taille, c'est qu'au moment où Isaac a béni Jacob, Jacob a trompé son père. Jacob a usurpé la bénédiction de l'aîné. Ici, c'est volontairement que Jacob inverse les bénédictions. On peut quand même dire que Dieu, dans sa souveraineté, a conduit toute chose, parce qu'il est vrai que Jacob a usurpé la bénédiction de l'aîné, mais Isaac aurait dû donner cette bénédiction à Jacob, parce qu'au moment de sa naissance, Dieu avait dit que le plus grand servirait le petit. Et donc Isaac a cherché à aller contre cette parole de Dieu. La question qui se pose à nous ici est celle du pourquoi. Pourquoi Jacob a-t-il agi ainsi? Pourquoi a-t-il croisé les mains? Et c'est l'Épître aux Hébreux qui nous apporte un éclairage intéressant sur cette question. Chapitre 11, la galerie des héros de la foi, un verset pour Jacob. C'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il se prosterna en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. L'Épître aux Hébreux n'a retenu sur les 147 ans de la vie de Jacob que cet épisode pour parler de la foi de Jacob. C'est à l'évidence pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'acte de foi de Jacob par excellence. Et cela nous amène à comprendre que Jacob, à ce moment-là, a agi conformément à la volonté de Dieu. C'est par la foi que Jacob a donné la prééminence à Éphraïm. C'est par la foi qu'il a croisé les mains. C'est par la foi, parce que certainement que Dieu le lui avait révélé. Il n'y a donc pas eu ce jour-là d'erreur de casting. Au-delà de l'histoire elle-même, cet épisode, avec beaucoup d'autres dans la Bible, nous rappelle la souveraineté de Dieu, nous rappelle aussi son élection, nous rappelle que ses voies ne sont pas nos voies, que sa logique n'est pas notre logique. En effet, cette souveraineté de Dieu dans le choix de certaines personnes, contre toute logique, est visible à plusieurs reprises dans les Écritures. Ainsi, Dieu a choisi Seth plutôt que Caïn. Il a choisi Shem plutôt que Japhet. Il a choisi Isaac plutôt qu'Ismaël. Il a choisi Jacob plutôt qu'Ésaü. Il choisit Éphraïm plutôt que Manassé. Et nous pourrions allonger la liste. Oui, Dieu appelle. Dieu choisit, Dieu élit. Et il ne le fait pas selon nos critères. Il ne le fait pas selon notre logique, mais selon la sienne, selon son bon vouloir. Et c'est ainsi que parfois la logique du droit d'aînesse, par exemple, n'a pas été respectée dans la Bible. Cette prérogative de Dieu, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, ne se retrouve pas que dans le choix de personnes, mais aussi, par exemple, et cela nous concerne, dans le choix des dons que Dieu donne à son Église, dans le choix des manifestations de sa grâce que Dieu accorde aux siens comme bon lui semble. Ainsi, Dieu non seulement appelle qui il veut, mais il équipe chacun comme il le veut. Dans l'Église, il donne ses dons et les ministères selon son bon vouloir. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire dans ce passage très connu de l'Épître aux Corinthiens, où il est question des dons dans l'Église et de tous les membres, dans la diversité des membres et des dons. Je lis ces quelques versets. « Or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. » Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre de la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par l'unique Esprit. À un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. Distribuant à chacun en particulier comme il le décide. Oui, Dieu est souverain. Il appelle et il donne comme il le décide. C'est sa prérogative. J'aimerais, pour terminer, revenir à ces paroles de bénédiction que Jacob prononce sur Joseph. Et Jacob, dans les versets 15 à 16, va utiliser une triple invocation de Dieu qui mérite quelques remarques, tant elle est riche. Je relis ces deux versets. Il bénit Joseph en disant « Que le Dieu devant qui ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui a été de tout temps mon berger jusqu'à ce jour, que le messager qui m'a rédimé de tout mal bénisse ces garçons, qu'on les appelle de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils foisonnent, qu'ils se multiplient dans le pays. » Il est d'abord question du Dieu devant qui ont marché ses pères, Abraham et Isaac. C'est ici le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui s'est engagé, le Dieu qui a fait des promesses. Voilà qui était Dieu pour Jacob. Le Dieu par lequel il bénit Joseph, puis Éphraïm et Manassé, est pour lui le Dieu qui s'est révélé à lui, qui s'est révélé à ses pères, le Dieu qui s'est engagé et le Dieu qui est fidèle à ses engagements. Est-ce aussi ce que Dieu est pour moi ? pour nous, nous sommes nous aussi au bénéfice des promesses de Dieu et de sa fidélité. Puis Jacob parle du Dieu qui a été de tout temps son berger. Cette image de berger, vous le savez, est très courante dans la Bible. Elle est souvent utilisée pour exprimer la confiance du croyant en son Dieu. Israël, comme la plupart des peuples de l'Orient ancien, était un peuple où la vie pastorale avait une place très importante. Ainsi, parler de Dieu comme d'un berger, c'était souligner ses soins, sa guidance, sa protection, son amour, et j'en passe. Nous le savons, Jacob n'a pas toujours été un modèle de foi, un modèle de piété, mais il a appris au fil des années de sa vie qu'il pouvait toujours compter sur Dieu, que malgré ses infidélités, Dieu était fidèle, que malgré ses égarements, Dieu n'était jamais bien loin de lui, parce qu'il est comme un berger qui chemine près des siens, près de son troupeau, en tout temps, à côté de lui, en tout temps, il va chercher la brebis qui s'égare. Est-ce aussi ce que Dieu est pour moi, pour nous ? Nous sommes nous aussi au bénéfice du soin du berger céleste, du bon berger qui est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Enfin, Jacob bénit Joseph du nom du messager qu'il a rédimé, délivré de tout mal. Et c'est certainement ici une allusion à celui contre qui Jacob s'était battu au torrent du Yabok, ce personnage énigmatique qui est bien plus qu'un homme, puisque l'Écriture va l'identifier comme l'ange de l'Éternel, cette manifestation de Dieu même dans l'Ancien Testament. Et Jacob est conscient d'avoir été au bénéfice de la protection divine tout au long de sa vie. Il sait que Dieu a veillé sur lui et il nous offre là un beau témoignage de foi au soir de sa vie. Est-ce aussi ce que Dieu est pour moi, pour nous ? Nous sommes nous aussi au bénéfice de ce regard de Dieu sur notre vie. Il est celui qui veille sur nous, même dans l'épreuve, même dans la maladie, même quand je dois passer par la vallée de l'ombre de la mort. Il est celui par Jésus-Christ qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est aussi ainsi que se termine notre passage. Quand Jacob, au verset 21, dit « Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. » Mais Dieu sera avec vous. Avec vous. Quel beau relais à transmettre à la génération suivante. Oui, Dieu est avec nous, il est avec les siens, avec ses enfants. Il est celui devant qui ont marché nos pères, devant qui ont marché tous ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi. Il est notre berger. Notre bon berger par Jésus-Christ, en tout temps. Il est celui qui veille sur nous. Il est celui qui est toujours avec nous. C'est pourquoi nous pouvons nous aussi avancer avec confiance, parce que Dieu est avec nous. Amen. Je vous invite à quelques instants de méditation silencieuse.